Mais nous voici arrivés en ce 20 juillet 1988 à poursuivre notre thème « Connais-toi toi-même » à la lumière du livre de Job. Et ce soir, nous allons reprendre la réponse de Job au discours de Sophar, considérant surtout le dernier chapitre, puisque la réponse de Job est composée de 3 chapitres, 12, 13 et 14, ce qui fermera le premier cycle des discours que nous trouvons dans ce livre. Comme je vous l'ai dit et vous l'avez peut-être constaté en feuilletant votre petite brochure qui contient la reproduction du texte de la colombe, vous aurez remarqué qu'il y a 3 cycles de discours. Mais avant tout, nous pourrions peut-être réciter ensemble le verset qui sert de thème et qui est Romains, chapitre 11, verset 33 à 35, pour nous pénétrer vraiment que nous sommes devant le Dieu dont les pensées sont insondables et les voies introuvables. On peut y aller. Ô profondeur des richesses de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier et il lui fera droit? Car de lui, amen. Et l'on pourrait rappeler, parce que vous voyez qu'il y a toujours correspondance, le texte que nous avons lu ce matin, dans le chapitre 9 de Jérémie, puisque on a entendu tous ces jours des sages prétendre donner une explication à Job, nous avons lu Jérémie, chapitre 9, verset 23e, comme parole du jour. Ainsi dit le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, verset 23, et que l'homme fort ne se glorifie pas dans sa force, et que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît. Car je suis l'Éternel qui use de bonté, de miséricorde et de justice sur la terre. Car je trouve mes délices, selon une version, ou mon plaisir en ces choses-là. Eh bien, nous n'avons pas d'excuse. Nous connaissons ce qui plaît à Dieu et nous voudrions vivre aussi de ce plaisir de Dieu. C'est ma prière constante pour chacun de vous ici, car vous n'êtes pas simplement assis sur ces chaises. Même si je ne pourrais pas dire tous vos noms, ce qui vous prouve que vous n'êtes jamais visé personnellement par moi, parce que je ne connais pas vos circonstances, mais si vous êtes touché ou atteint par une parole, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu et vous avez affaire avec le Seigneur. Ne détournez jamais l'épée de votre propre cœur, comme ces âmes éternellement impénitentes qui disent toujours « Oh, quel dommage qu'il n'y ait pas eu telle personne hein. !» C'était juste pour lui. Mais ça, vous les connaissez. Et il regrette l'absence de quelqu'un parce que ils auraient voulu qu'il entende ça. Bien non, vous êtes là pour entendre pour vous la parole inspirée de Dieu et qui est utile, comme nous l'avons lu, pour nous enseigner, pour nous corriger et nous convaincre et nous rendre parfaitement accomplis et propres pour toute bonne œuvre, ces œuvres que Dieu voudrait que nous puissions accomplir dans sa dépendance. Nous prions. Dieu notre Père, oui, tu nous enveloppes tous de ton regard d'amour. Nous avons une place dans ton cœur. Nous sommes déjà comme dans la maison du Père, dans ton cœur de Père. Cœur de Père, oui, mais aussi cœur de Mère. Nous avons tout en toi. Et si les hommes ne peuvent pas nous consoler, toi, tu nous consoles comme une mère. Et nous te bénissons parce que si même nous pouvons perdre une mère ou un père, nous ne pouvons pas te perdre. Et toi, tu as un cœur de mère, et tu sais consoler. Ce que les sages de ce siècle, ce que les intelligents de ce monde, ce que les diplômés ne peuvent pas nous donner, nous l'avons trouvé en toi. En toi, ô Jésus, et nous voulons être de tes élèves, nous voulons être à ton école. Pour pouvoir aussi consoler les autres par la consolation dont nous avons été nous-mêmes consolés de Dieu dans nos propres épreuves. Et nous voulons te demander que toute épreuve que nous traversions puisse nous apporter justement cette leçon et que nous puissions nous en souvenir pour être utiles aux autres, pour ta seule gloire. Devenir les instruments de ton cœur, être dans ta main, ne pas agir par nous-mêmes d'une façon charnelle, mais te laisser agir en nous pour le bien de tous. C'est notre demande ce soir. En Jésus. Amen. Mes amis, vous avez remarqué que les trois amis de Job, venus de loin et qui s'étaient concertés pour apporter une consolation à Job, un de ces trois amis, Sophar, était le plus agressif et je dirais aussi le plus médiocre. Dans ce chapitre 11, que nous avons lu. Il n'a pas présenté un seul élément nouveau dans le débat, mais il s'est exprimé avec une brutalité qui est effarante et sans avoir aucun ménagement pour son frère en détresse. Pourtant, il se prétendait l'ami. Évidemment, il n'avait pas lu les proverbes, où il est souvent parlé de l'amitié. Et ces textes que j'ai aimés dès ma jeunesse, l'ami aime en tout temps. Et dans la détresse, qu'est-ce qu'il se montre? Il se montre un frère. Ou encore, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Ou un autre texte, toujours dans les proverbes, mais nous avons étudié ce merveilleux livre ici dans ce camp. La douceur d'un ami est le fruit d'un conseil qui vient du cœur. Et il y en aurait d'autres. Nous ne trouvons pas cela en Sophar. Le discours de Sophar, je le dis encore une dernière fois, on pouvait le diviser en trois strophes, les versets 2 à 4, si vous avez vos Bibles. Eh bien, ce sont d'abord des reproches. Il traite son ami de bavard, de menteur, de moqueur. Puis, dans la deuxième strophe, versets 5 à 12, nous l'entendons faire des considérations sur la grandeur incompréhensible de Dieu. Il parle avec une certaine éloquence de cette grandeur de Dieu et de ses perfections. Il en dit les mesures, la profondeur, la hauteur, la largeur, la longueur, et ça nous a fait penser aux dimensions de cet amour qui surpasse toute connaissance et dont l'apôtre Paul parle au chapitre 3 de l'épître aux Éphésiens. Oui, Sophar a exalté la justice de Dieu devant Job. Puis la troisième strophe, qui va jusqu'à la fin, c'est une conclusion qui ressemble un peu à la conclusion que vous trouvez dans le discours des deux autres amis. En finale, c'est un appel à la repentance pour Job, en nous montrant, soi-disant, les fruits que produirait sa conversion. S'il changeait vraiment de pensée, s'il se détournait de ce qu'il avait pu dire et qui avait tellement irrité ses amis. La disposition de Sophar, je l'ai dit en passant, ça s'appelle le légalisme. Au fond, qu'est-ce qu'il prêche à Job? Vous l'avez bien remarqué, au fond, il prêche le salut par les œuvres. Pour toi, si tu diriges ton cœur, si tu étends les mains vers Dieu, donc si tu pries, si tu éloignes l'injustice de ta main et ne laisse pas demeurer l'iniquité sous les tentes, alors tu lèveras ton front sans tâche. Au fond, tout dépend de toi. Et si tu es dans un bon état, alors, tu auras les fruits, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras ta peine, tu ne t'en souviendras que comme des eaux écoulées, ton existence s'élèvera plus brillante que le midi, les ténèbres seront comme le matin, un beau cantique, de nouveau chanté à un cœur affligé, qui fait à Job l'effet du vinaigre sur le nitre, comme nous vous l'avons déjà dit, ou comme si on lui enlevait son manteau alors qu'il a déjà froid. Eh bien, voilà le résultat de l'œuvre de ces gens qui viennent au nom du Seigneur, soi-disant pour nous apporter la parole, nous consoler, nous exhorter, et qui ne sont pas dans la dépendance de Dieu, et qui ne font que nous blesser davantage, et qui ne nous aident pas à nous sortir de nous-mêmes, hein, parce qu'au fond, ils replacent, Sophar, Job, en plein dans ce qu'il devrait être, dans ce qu'il devrait être sorti, ils le replacent dans son moi. Et alors, qu'est-ce qu'il arrive? Eh bien, Job répond, et nous avons vu que cette réponse se compose de trois chapitres. Ce matin, nous avons considéré brièvement les deux premiers chapitres, 12 et 13, où Job constate que non seulement il n'a pas eu droit à la miséricorde qu'il avait demandé à ses amis d'une façon très précise, mais qu'il était devenu un objet de risée, de raillerie pour ses amis. Mais alors c'est là qu'il faudrait voir plusieurs versions, et je regrette peut-être d'avoir pris la version seconde, parce qu'elle n'est pas toujours encore, malgré ses corrections, ce qui est le plus fidèle. On trouve dans ce chapitre 12, dans sa réponse, des choses absolument merveilleuses que je voudrais quand même encore souligner. Quand Job parle du juste parfait, vous voyez au verset 4, il dit, nous lisons, on dirait en vérité que le genre humain c'est vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Hein? C'est le heurt des pensées. Je ne vous suis pas inférieur, et qui ne saurait pas les choses que vous m'avez dites? Il les sait, et il les sait peut-être mieux que. Mais au lieu du le juste, l'homme intègre, un objet de raillerie, verset 4, je suis quelqu'un qui est un objet de raillerie pour son ami quand il invoque Dieu pour qu'il lui réponde. Le juste, l'homme intègre, un objet de raillerie, de qui parle-t-il? De lui. Vous voyez qu'ils l'ont centré sur lui-même. Et c'est ce dont il aurait besoin d'être délivré, ne plus être centré sur soi, parce que tout l'évangile nous dit que pour être heureux, il faut renoncer à soi-même. Et au fond, tout ce qu'on a réussi, c'est de le centrer sur lui-même. Et il se croit juste, il se sait juste, il se pense juste, mais au fond, est-ce qu'il y a un juste parfait? Qui est le juste parfait? C'était Jésus. Et au fond, on peut y voir là une allusion au Seigneur, on peut discerner, oui, parce que Romains 3 nous dit clairement, il n'y a point de juste, non pas même un seul. Paul reprenant le texte du psaume 14. Dieu a regardé sur la terre, et nous l'avons vu, les regards de l'Éternel se promènent sur toute la terre, et il n'a pas trouvé un juste, pas même un seul. Sauf au Jourdain, où, un certain jour, son fils unique et bien-aimé, mêlé à la foule des pécheurs qui venaient pour être baptisés par Jean, est apparu, et le ciel s'est ouvert, et la voix du Père a dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir, ce plaisir dont nous avons parlé dans Jérémie. Il était en Jésus. Donc, le juste parfait, c'était le Seigneur. Et alors, en quelque sorte, Job, dans ce qu'il raconte, il raconte ce qui est arrivé au Seigneur. Parce que qui est-ce qui a été l'objet de raillerie? Quand il était cloué sur la croix, et que les gens passaient devant la croix, le juste parfait crucifié a été l'objet de railleries. La risée, on l'avait dévêtu et on l'avait crucifié. Et quand il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On disait, eh bien, que Dieu le délivre s'il tient à lui. Alors là, vous voyez comme vous pouvez trouver une image du Seigneur Jésus creusée dans cette parole et y découvrir la personne même du Seigneur Jésus. Job croit parler de lui, mais au fond, ce qu'il représente, c'est Jésus, qui a été, lui, le juste parfait, qui était l'objet de raillerie et de mépris. Lisez Matthieu 27 Et vous pourrez mieux comprendre verset 43. Creusez ce passage et vous y trouverez même Ésaïe 53, verset 4, puis le psaume 56, verset 6 à 7, qui nous parle de ce que le Seigneur a enduré. Tout le jour, ils tordent mes paroles, toutes leurs pensées sont contre moi en mal. Ils s'assemblent, ils se cachent, ils observent mes pas, car ils guettent mon âme. Et puis, nous pourrions continuer cette méditation. Alors, je vous recommande de relire ce chapitre et de comparer la vie de Jésus et celle de Job, qui n'a pas pu supporter, lui, la moquerie. Mais Jésus, il a supporté la moquerie. Job n'a pas su accepter aussi les accusations mensongères qu'on a portées contre lui. Et pendant 3 chapitres, il va se faire lui-même l'avocat de sa juste cause. C'est ce que Jésus a fait. Même devant Pilate, quand on l'accusait, il a gardé le silence. Il ne s'est pas défendu. Donc, vous voyez, alors, toute la distance qui sépare Job, qui se croit parfait, droit, mais que Dieu considère quand même comme un saint homme, j'enlève rien à cela, mais toute la distance qu'il y a entre un Job et le Seigneur Jésus. Et c'est cela qu'il doit voir. Et nous aussi, nous sommes des chrétiens, mais il y a si souvent une si grande distance entre nous, notre témoignage et celui de Jésus. On peut chanter à n'en plus finir, te ressembler Jésus, n'est-ce pas? C'est notre désir suprême, bien sûr. Mais il faut plus que chanter ce cantique pour ressembler à Jésus. Il faut accepter que la parole de Dieu ait réellement son effet en nous. Et alors, je ne vois pas Jésus se défendre. On l'accuse, il se tait, on le frappe, il ne répond pas. Tandis que Job, blessé, eh bien, il renvoie les coups et puis il montre qu'à ce moment-là encore, il n'est pas brisé. Alors, nous arrivons déjà à une certaine date du camp et je me demande si nous avons été brisés ou si nous regardons simplement les choses à venir ou bien si l'Esprit de Dieu nous a déjà travaillé assez pour nous briser. Si nous commençons de le voir, lui, de le regarder, lui, et de nous dire, oui, quelle distance. Mais je le vous dis encore, elle n'est pas en hauteur, la distance. Elle est en profondeur. Il n'est pas question pour vous de faire un effort pour parvenir jusqu'à lui afin de lui ressembler. Il est question de vous abandonner, de tomber dans ses bras, de cesser vos luttes vaines et de croire sa parole pour tomber dans les bras éternels. Au-dessous de vous sont les bras éternels. C'est toujours notre orgueil qui nous empêche d'avoir toutes les bénédictions. Mais les bénédictions, on les a dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Et nous devrions vivre en béni. Notre vie sur la terre, notre marche, devrait être une marche royale. Car nous marchons sur une route royale. Le Seigneur nous a tracé le chemin et il habite en nous. Donc Job, dans tout ce qu'il dit là, quand vous creusez un peu, il n'était pas dans la présence de Dieu. Il se justifiait. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne se justifie pas. On a appris que c'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Qui est-ce qui pourrait nous condamner? C'est le Christ. Et c'est lui qui est notre rédemption. Lui, Job, se justifiait, il blâmait son prochain, et puis il se trompait aussi à l'égard de Dieu. Trois choses. Hein. Il se justifiait, il blâmait son prochain, et puis il se trompait à l'égard de Dieu et de ses pensées à son égard. De sorte que l'on peut trouver dans le discours de Job quatre mouvements. Dans ce chapitre 12, depuis verset 1 à 25, il nous parle de l'expérience que lui a faite, et c'est vrai cette expérience, mais contre le dogme, simplement les théories des hommes qui deviennent des sophismes. Job a observé, et en tout cas, il en sait autant que ses amis, de sorte que tout ce qu'ils lui ont dit ne servait à rien. Job, donc, est encore loin d'être brisé. Qu'est-ce qu'il se sent, simplement, après toutes ces conversations? Quel est son sentiment? Je suis supérieur à eux. C'est ça. Alors, il n'est pas du tout dans l'esprit du Seigneur. Parce que lui, le Seigneur, qui était supérieur à tout, qui était de condition divine, quand il est venu sur la terre, il a renoncé à cette condition divine pour se faire semblable aux hommes. Et il s'est dépouillé. Littéralement, il s'est anéanti lui-même. Il a été trouvé en figure comme un homme. Et il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Et alors, nous sommes exhortés dans ce chapitre 2 des Philippiens à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et à considérer notre prochain comment? Comme supérieur à nous-mêmes. Mais Job ne considère pas du tout ses trois amis qui se sont pourtant déplacés, qui avaient dans leur cœur en arrivant de bons sentiments, mais qui peu à peu, en voyant la situation de Job et ne comprenant pas cette succession d'épreuves, se sont dit, pour que Dieu permette une chose pareille, il faut bien que notre ami ait commis quelque chose de très grave, qu'il n'a pas encore avoué, qu'il n'a pas encore confessé, et alors il s'acharne à l'amener à reconnaître une faute que Job, lui, ne voit pas. Parce que il ne se connaît pas lui-même, et c'est là pour moi le grand thème du livre de Job. Dans la deuxième strophe, qui va du verset 7 au verset 12, on voit la sagesse traditionnelle qui est exposée, et Job la connaît bien mieux que ses amis. Il sait en tout cas ce que ses amis savent. Et c'est là qu'il commence à leur dire qu'il ferait bien d'interroger les bêtes. Ils ont voulu l'instruire, mais les bêtes auraient bien des choses à leur dire. Et alors, pour vous montrer ce soir combien c'est quand même important d'avoir plusieurs traductions, et je voudrais vous encourager quand même, quoi qu'elle ait des défauts, mais à lire le texte dans le français courant, qui pourrait vous aider et vous faire comprendre, par exemple, ce que ça veut dire prendre sa chair avec les dents. Hein. C'est risqué de mourir. Je suis prêt à prendre ma chair avec les dents, c'est un proverbe. Mais alors, évidemment, les gens qui lisent ça aujourd'hui, ils n'y comprennent rien. Alors, on a pensé que c'était bon de faire une Bible plus populaire, tout en étant fidèle quand même à la pensée originelle, à la pensée du texte, pour que les gens puissent y comprendre quelque chose. Mais comme je sais, quand nous avons lancé le Nouveau Testament en français courant, j'étais un de ceux qui avaient cette responsabilité à Montréal,
Nous avons été critiqués, surtout par les milieux évangéliques. C'était quelque chose d'épouvantable. On disait que nous lancions une Bible où on niait toutes sortes de choses, où on tordait les passages. Il y a des lacunes, c'est vrai, comme dans toute traduction. Mais dire que le français courant niait le son de Christ, ces choses-là, c'était de la pure calomnie. Et ça venait des milieux, surtout évangéliques. Eh bien, nous avons osé faire front et nous réjouir que des catholiques puissent aussi être là et être reconnaissants, eux qui n'avaient pas une grande connaissance de la Bible, de pouvoir lire un texte dans un langage du jour. Alors, si vous me permettez, ce soir, puisque nous n'avons qu'un chapitre, je pense que le Seigneur nous a tout conduit, eh bien, de vous lire en français courant, vous pouvez comparer avec ce que vous avez dans la colombe. Hein. Le chapitre 12. Bien sûr, vous détenez tout le savoir humain. La sagesse mourra en même temps que vous. Mais moi aussi, je sais réfléchir tout autant et je ne me crois pas plus stupide que vous. Ce que vous avez dit, tout le monde le sait. C'est un langage que vous comprenez facilement. Oui. Non, on est dans le 12. C'est un peu en avance. Oui. Je fais ce que je fais d'habitude. Hein. Je reviens un peu sur ce qu'on a dit. Parce qu'on a dû aller très vite. Parce qu'on a parlé de bien d'autres choses aussi. Alors, je fais appel à Dieu, verset 4, dans l'espoir qu'il réponde. Et que m'arrive-t-il? Me voilà devenu quelqu'un que mes amis tournent en ridicule. On tourne en ridicule celui qui est honnête, un homme irréprochable. Mais là, il y a aussi une lacune parce qu'il est vraiment question du juste. Il se prend pour le juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Mais il devient alors l'image du Seigneur. Verset 5. Le malheureux n'a droit qu'à un complet mépris. Telle est la devise des gens qui sont tranquilles. Ils l'appliquent à ceux dont le pied a glissé. Et les violents sont sans souci dans leur maison. Ceux qui provoquent Dieu sont en sécurité. Ils ne connaissent pas d'autre Dieu que leur force. Parce qu'ils ont la force, disons. Eh bien, dans Jérémie, il est dit, n'est-ce pas, que le vrai sage, il ne met pas sa sagesse dans la force, ni dans la richesse, ni dans son intelligence, mais dans le fait qu'il connaît Dieu. Nous étions à quel verset? 7. Alors, mais questionne plutôt les bêtes. Les oiseaux, ils te renseigneront. Parle donc à la terre, elle saura t'instruire. Les poissons dans la mer, il en sait quelque chose, lui, ou dans le lac, ont beaucoup à t'apprendre. Les poissons ont beaucoup à t'apprendre. Vous imaginez ces professeurs sous les eaux qui ont quelque chose à nous apprendre. Ben, il faut savoir nager. Verset 9. Parmi tous ces êtres, lequel ignore encore que tout ce qui arrive est l'œuvre du Seigneur? Rendez-vous compte, ce ne sait pas plus que les poissons. Les poissons le savent. C'est lui qui tient en main la vie des créatures, le souffle qui anime le corps des humains. L'âme de tout être humain, là c'est un verset, c'est capital et qu'on pourrait méditer longuement là-dessus. Ne dit-on pas en une sorte de proverbe? Le rôle de l'oreille est d'apprécier les mots, tout comme le palais doit percevoir les goûts. Le discernement est le propre des vieillards. L'expérience est le privilège du grand âge, c'est ce qu'on dit, hein, comme une sorte de proverbe. Mais en fait, le discernement et l'expérience appartiennent à qui ? À Dieu. Ce n'est pas nécessairement au grand âge. Parce que moi, ce qui me frappe le plus, c'est de voir combien peu nous avons de discernement spirituel. C'est une des grâces que nous devons demander, le discernement spirituel. Et nous ferions beaucoup moins de faux pas. Il possède aussi puissance et savoir-faire. Verset 14. On ne rebâtit pas ce que Dieu démolit. On ne libère pas celui qui l'emprisonne. Quand il retient la pluie, la sécheresse est là. Mais s'il lâche les eaux, la terre est dévastée. Il possède la force, il a l'habileté. Si un homme se perd ou s'il égare un autre, c'est Dieu le responsable. Il fait marcher pieds nus les grands hommes d'État. Il y en a certains qui pourraient vous le dire. Il fait perdre la raison aux dirigeants. Il dénoue de même le grand cordon des rois. Elle leur noue sur les reins la corde des captifs. Il fait marcher pieds nus les prêtres eux aussi et renverse d'un coup les pouvoirs établis. C'est tout à fait moderne, ça. Il ôte la parole aux meilleurs orateurs. Il prive les vieillards de leur discernement. Il répand le mépris sur les gens haut placés. Et laisse les tyrans tout à coup sans défense. Il ôte aux profondeurs leur manteau de ténèbres et fait sortir au jour ce qui était dans l'ombre. Il fait grandir les peuples, puis cause leur ruine. Il les laisse s'étendre, ensuite il les déporte. Il ôte la raison au maître du pays. Elle les laisse errer dans un désert sans issue, avancer à tâtons dans la nuit sans lumière. Il les fait tituber comme ils étaient ivres. N'est-ce pas ? Eh bien, voilà un texte qui, à mon sens, est bien littéral et très compréhensible, plus compréhensible que certaines versions que nous aimons, que nous respectons. Mais je voudrais vous montrer la valeur de ce travail. Je connais très bien le professeur Margot, qui est un ami très fidèle, et moi je suis très heureux que cet effort ait été fait pour ceux qui peut-être n'ont pas un grand vocabulaire et beaucoup de connaissances, mais qui peuvent quand même recevoir la parole, parce que, en vérité, c'est cela qui compte. Là, j'aurai la Bible de Chouraki, et qui, alors, a traduit cela en français, mais vous n'y comprendriez pas grand-chose, parce que, et vous ne seriez pas édifié. De sorte que ce qui compte, c'est que cette parole ait un accès pour vous. Alors, je continue, parce qu'on arrivera quand même à notre chapitre 14. Hein. Voilà tout ce que j'ai observé de mes yeux, chapitre 13. Hein. Clairement entendu de mes propres oreilles. Tout ce que vous savez, je le sais moi aussi. Et je ne me crois pas plus stupide que vous. Mais moi, je veux parler à Dieu, au Tout-Puissant. Je veux me plaindre à lui. Quant à vous, vous trichez avec la vérité. Ça m'a frappé parce que nous avons fait notre dernière réunion dans le temps familial qui était à vivre et nous avons souligné que nous ne devions pas tricher avec la vérité.
Eh bien oui, quand à vous, vous trichez avec la vérité. Vous offrez tous des remèdes de charlatans. Il aurait mieux valu vous taire tout à fait. Vous auriez pu ainsi passer pour des gens sages. Écoutez donc plutôt quand j'exprime mes plaintes et soyez attentifs à ma protestation. Pensez-vous servir Dieu en déformant les faits? Prendrez-vous sa défense à coup de fausses preuves? Montrez-vous pour lui de la partialité? Prétendez-vous pouvoir plaider en sa faveur? Et s'il vous inspectait, serait-ce bon pour vous? On ne trompe pas Dieu comme l'on trompe un homme. Si vous avez même en secret du parti pris, il aura sûrement un reproche à vous faire. Ne redoutez-vous pas la majesté de Dieu? N'êtes-vous pas saisi par la peur qu'il inspire? Vos arguments ne sont que de la poudre aux yeux et vos raisonnements des murailles de boue. Taisez-vous devant moi, à mon tour de parler, et peu importe alors ce qui m'arrivera. Peu importe alors ce qui m'arrivera. Il est prêt à risquer la mort. Et c'est ce fameux proverbe qui vous paraissait peut-être une de ces oubliettes, hein, quand je vous ai souligné qu'il y avait des passages difficiles. Me voilà prêt à tout, même à risquer ma vie. Que Dieu me tue, s'il le veut, n'ai plus rien à perdre. C'est une autre façon de traduire, là. Mais il est prêt à risquer sa vie. Que Dieu le tue, même s'il me tue, j'espérerai en lui. Mais il n'a plus rien à perdre. Mais devant lui, je veux défendre ma conduite. Et si j'y réussis, ce sera ma victoire. Car Dieu n'admet personne de mauvaise foi. Parce que justement, on peut défendre la cause de Dieu de mauvaise foi. Alors si les gens à qui vous parlez s'aperçoivent que vous êtes de mauvaise foi, ils ne vous croiront pas. Écoutez sérieusement ce que j'ai à dire. Ouvrez vos oreilles à mes explications. Eh bien, je me prépare à aller en justice et j'ai la conviction que je suis innocent. Dès lors, qui osera contester mon bon droit? Je suis prêt, si j'ai tort, à me taire et mourir. Moi, je trouve que c'est bien tourné et c'est fidèle. Mon Dieu, accorde-moi deux choses seulement, et je pourrai enfin me présenter à toi. D'abord, délivre-moi de ta main qui m'accable. Ne laisse plus peser l'épouvante sur moi. Prends la parole ensuite, et je te répondrai, ou bien je parlerai, et tu répliqueras. Combien de torts m'attribues-tu? Combien de faux? Fais-moi savoir en quoi je t'ai désobéi. Pourquoi détournes-tu ton visage de moi et me traites-tu comme un de tes ennemis? C'est ce qu'il croyait. Et Dieu allait justement le bénir. Qui donc pourchasses-tu? Une feuille qui vole? Qui poursuis-tu sans fin? Un brin de paille sèche? Tu écris contre moi un rapport bien sévère. Tu m'as fait supporter mes fautes de jeunesse. Tu ne me laisses plus circuler librement. C'est ça, mettre ses pieds dans les ceps. C'est comme ça qu'on mettait les prisonniers entre des bois et qui se fermaient. Et c'est ça qu'on appelle un cep. Mais les gens ne savent pas. Alors, voilà comment ça a été traduit. Tu ne me laisses plus circuler librement. Tu gardes l'œil fixé sur tous mes faits et gestes. Tu vas juger, tu vas jusqu'à noter les traces de mes pas. Mais ma vie se défait comme un bois vermoulu et comme un vêtement dévoré par les mythes. J'ai eu à cœur de vous donner cette version pour que vous puissiez comprendre la valeur d'une autre version qui peut vous aider. Il n'y a pas besoin de commenter quand cela peut être si compréhensible. L'homme naît de femme. Sa vie est courte et saturée d'agitation. Le français courant dit « L'homme n'est rien d'autre que l'enfant de la femme. Sa vie sera donc brève et remplie de tourments. » Je reviens à le français courant. Il a poussé comme une fleur et il est coupé. Il prend la fuite comme une ombre et ne s'arrête pas. Nous pouvons trouver des textes semblables dans les Écritures, dans le chapitre 40 d'Ésaïe, comme aussi dans l'épître de Pierre, où il est parlé de l'homme qui est comme la fleur de l'herbe. Verset 3. « C'est sur lui que tu as l'œil ouvert. » Comme la fleur, il s'épanouit et puis se fane. Comme l'ombre qui passe, il est bientôt parti. Et c'est cela, mon Dieu, que ton regard épie. Et c'est moi que tu traînes ainsi en justice, un être donc si faible. Verset 4. Qui fera sortir le pur de l'impur? Personne. Dans le français courant. Mais qui peut donc tirer quelque chose de pur de ce qui est impur? Pas un seul être au monde. Verset 5. Si par toi ces jours sont fixés, donc les jours de l'homme, le nombre de ces mois, comme nous l'avons vu dans le psaume 139 que je vous ai déjà cité, quand nous étions encore dans le sein maternel, tous nos jours, les jours que nous devions vivre, étaient écrits dans son livre. Si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, et vous savez que les gens, au temps des patriarches, eh bien, il a tué. C'est gentil. Voilà. Détourne de lui les regards et qu'il fasse une pause pour qu'il ait au moins le plaisir du salarié à la fin de sa journée. La durée de la vie est limitée pour l'homme. C'est toi qui as fixé le nombre de ses mois. Il ne peut dépasser la ligne que tu traces. Cesse de le guetter, laisse-le tranquille, et qu'il termine en paix sa journée d'ouvrier. Vous voyez, ça veut dire la même chose quand même, mais sous une autre forme. Puis alors, verset 7. Pour un arbre, il y a une espérance. Si on le coupe, il repousse. Ses rejetons ne manqueront pas. Si sa racine vieillit dans la terre, si son tronc meurt dans la poussière, il refleurit à l'approche de l'eau. C'est une chose qu'on peut constater. Il produit des rameaux comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'être humain expire. Où est-il donc, alors? Verset 7 en français courant. Or, il reste toujours de l'espoir pour un arbre. Si on le coupe, il peut se mettre à repousser. Il ne manquera pas de produire un bourgeon. Même si sa racine vieillit dans la terre et si sa souche paraît morte dans le sol, un peu d'eau lui suffit pour qu'il reprenne vie et pousse des rameaux comme s'il était jeune. Quand l'homme meurt, par contre, il reste sans ressources. Que devient-il une fois qu'il a expiré? Dans notre version, on lit « Il expire et où est-il ?» Un jour, peut-être, les fleuves seront taris et la mer n'aura plus la moindre goutte d'eau. Mais l'homme qui est mort ne se lèvera pas, il ne sortira plus de son dernier sommeil, du moins tant que le ciel n'aura pas disparu. Et je reprends l'autre version. Mais l'homme meurt et perd sa force, l'être humain expire, où est-il alors? Est-ce que nous savons où sont les personnes qui sont mortes? Vous vous souvenez de la question de Dieu à Caïn? Où est Abel, ton frère? Qu'est-ce qu'il répond, Caïn? Je ne sais. Il sait bien où est le corps, mais Abel qui lui parlait, où était-il? Il n'était plus dans son corps, mais il ne le savait pas. Alors, il dit, je ne sais. Il sait bien où est le corps, mais c'est un demi-mensonge. Quant au corps, il sait où il se trouve. Mais l'esprit qui devait retourner à Dieu, il ne sait pas où il est. Alors, Job, lui, déjà, se pose cette question. Les eaux de la mer, verset 11, peuvent se retirer, les fleuves tarissent et se sèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne se réveillera pas avant que les cieux disparaissent. Il ne sortira pas de son sommeil. « Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir au secret jusqu'à ce que ta colère s'apaise, et me fixer un terme pour que tu te souviennes de moi. » Puis alors ce verset 14, qui est comme l'espérance d'une résurrection. « Mais si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, je serais dans l'attente tous les jours de mon service, jusqu'à ce que vienne ma relève. Tu appellerais alors, et moi je te répondrai. Tu languirais après l'œuvre de tes mains, mais maintenant tu comptes mes pas. N'observes-tu pas mon péché? Mon crime est scellé dans un sac, et tu ravives ma faute. Mais la montagne tombe et se disloque. Le rocher se déplace, les eaux usent, les pierres, c'est les roseaux, et la terre est emportée par leur courant. Ainsi tu fais périr l'espérance de l'homme. Tu es sans cesse à la faillir, et il s'en va. Tu le défigures, puis tu le renonces, tu le renvoies. Ses fils sont-ils honorés? Il n'en sait rien, s'il est mort. Sont-ils dans l'abaissement? Il ne s'en aperçoit pas. C'est dans sa chair à lui qu'il souffre. C'est son âme à lui qui est en deuil. Je me permets de vous lire l'autre version. Quand l'homme meurt, il reste sans ressources. Que devient-il une fois qu'il a expiré? Un jour, peut-être, les fleuves seront taris, la mer n'aura plus la moindre goutte d'eau, mais l'homme qui est mort ne se lèvera pas, il ne sortira plus de son sommeil, du moins tant que le ciel n'aura pas disparu. Si seulement, mon Dieu, tu voulais me cacher, me garder à l'abri dans le monde des morts, jusqu'au jour où tu cesserais de m'en vouloir, si tu me fixais un délai, après lequel tu voudrais de nouveau te souvenir de moi. Mais l'homme qui est mort, peut-il reprendre vie? Je saurai patienter. Vous voyez, s'il avait la connaissance là, qui a une autre vie, je saurai patienter le temps de mon service jusqu'au moment où tu viendrais me relever. Alors je répondrai quand tu m'appellerais, quand tu voudrais me voir, moi que tu as créé. Tandis que maintenant, tu comptes tous mes pas, tu cesserais de surveiller mes manquements, dans un sac bien fermé, tu cacherais mes fautes, tu couvrirais mes torts d'une couche de plâtre. Eh bien, au fond, qu'est-ce que nous savons, nous autres, au sujet de nos péchés? Est-ce que c'est scellé dans un sac et Dieu garde ça dans un sac? Non, il les a jetés derrière son dos, dans les profondeurs de la mer. Mais vous voyez que la révélation est progressive. Le Seigneur n'était pas encore venu. Alors, au fond, ce que Job aurait voulu, c'est que ses péchés, quand même, ne paraissent plus. Que ça soit dans un sac. Mais on a mieux que ça. En Jésus-Christ, nous savons que tous nos péchés sont effacés. Que Dieu même ne s'en souvient plus et ne veut pas que vous viviez vous-même dans le souvenir de vos transgressions. C'est lui qui le dit dans le psaume 103. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Alors nous ne devons pas vivre toujours avec ce sentiment de culpabilité. Quand vous avez confessé vos péchés, eh bien, le Seigneur a pardonné, il ne s'en souvient plus. Pierre est tellement délivré de son reniement qu'il peut dire après, dans sa prédication, « Vous avez renié le Saint et le Juste ». S'il vivait dans le souvenir de sa transgression, il ne pourrait jamais dire une chose pareille. Alors, on termine. « Cependant, les montagnes tombent en morceaux, les rochers finissent par être déplacés, les eaux arrivent à user même les pierres, et l'averse emporte la terre labourable. Toi aussi, tu ruines l'espérance de l'homme, tu le jettes par terre, il s'en va pour toujours, la mort le défigure. » Et c'est vrai, hein? On n'a plus le même visage une fois mort. Et je vois qu'ils ont été influencés par le français courant ici, hein? Parce que dans l'autre version, tu changes sa face et tu le renvoies. Bien évidemment, la face d'un mort, c'est plus tout à fait la même chose. Hein. Au moment de la mort, eh bien, notre face se change. Tu changes sa face. La mort le défigure et tu le chasses loin. Si on couvre ses fils d'honneur, il n'en sait rien puisqu'il est mort. Si on les humilie, il ne s'en rend pas compte. Il ne peut que souffrir de sa propre douleur. Il ne peut que gémir de son propre malheur. Voilà. Vous avez des questions ? J'ai réfléchi un peu à la question que notre ami avait posée au sujet de l'amertume. J'ai essayé de vous donner comme cela quelques pensées. Qu'est-ce que c'est que l'amertume? Bien, c'est une tristesse, c'est une peine qui peut devenir une aigreur et de l'âpreté. Ça a une saveur amère. Alors, si je me replace en face de l'Écriture, je vois qu'il y a plusieurs sortes d'amertume. Il y a l'amertume d'esprit, et que connaissait un couple, Isaac et Rebecca. Pour quelle cause? Parce qu'il faut savoir les causes d'amertume, hein. C'était Ésaü qui avait choisi des femmes qui ne convenaient pas à ses parents. Et à cause de cela, ils avaient de l'amertume. Ils avaient, c'est-à-dire, de la tristesse. Ils étaient contrariés à cause du mariage d'Ésaü avec les filles de Hé. Maintenant, il y a l'amertume même d'Ésaü. À quel moment ? Genèse 27, quand il s'aperçoit que Jacob lui a volé, en quelque sorte, la bénédiction. Alors, il est dit qu'il a poussé des cris pleins d'amertume parce qu'il a perdu la bénédiction. Cette bénédiction qu'il avait cherchée et que Dieu ne lui a pas donnée, quoi qu'il l'eût cherchée avec larmes. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'a pas exaucée? Eh bien, c'est parce que il n'a pas jugé son péché. Il avait été léger, il avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, il avait méprisé ce que Dieu lui avait donné. Et alors, un jour, bien, il y a les conséquences qui sont là, et alors, au lieu de pleurer sur son péché, de dire, j'ai manqué, je n'aurais pas dû faire cela, eh bien, il a pleuré sur la bénédiction perdue. Alors, si vous pleurez sur la bénédiction perdue, vous restez avec votre amertume. Mais si vous pleurez sur le péché qui vous cause maintenant de la tristesse, eh bien, le Seigneur peut vous répondre. Il y aurait l'amertume de Naomi. Naomi, qui voulait dire mes délices, et qui dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que le Seigneur m'a rempli d'amertume. Et quelle était cette amertume ? Mais c'était la tristesse d'avoir manqué de foi. Il y avait une famine à Bethléem, et avec Élimélec, qui était pourtant un homme de Dieu, eh bien, ils sont partis au pays de Moab, qui n'était pas le pays de la bénédiction, mais pour leur pain, ils ont oublié que l'homme ne vit pas de pain seulement, ils sont partis, et comme ils avaient des enfants, eh bien, ils ont mis leurs enfants dans une fausse situation. Et qu'est-ce qu'il arrive quand les enfants grandissent et que vous avez choisi un certain lieu où vous les faites grandir? Il arrive qu'ils veulent se marier. Et alors, se marier dans le pays de Moab, c'était prendre quoi? Des Moabites. Et c'est les parents qui sont responsables du choix, au fond, qu'ont fait leurs enfants. Et alors, qu'est-il arrivé? Élimélec est mort, le mari de Naomi, et puis Maclon et Kilion sont morts, eux aussi, les deux fils. Et alors on peut comprendre, Naomi, toute seule, avec ses deux belles filles, qui sont des étrangères, veut retourner dans son pays, alors elle doit se séparer de ses filles. Mais il y en a une qui ne veut pas la quitter, c'est Ruth, et c'est cette merveilleuse histoire qui nous a aussi occupé une fois dans un temps, l'histoire de Ruth. Et quand Naomi arrive à Bethléem, les gens la reconnaissent, ça veut dire qu'ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts de la famine. On ne meurt pas de la famine, c'est pas ça. Il faut savoir traverser les épreuves, mais pas se déplacer simplement parce que nous avons une épreuve. C'est cela que le Seigneur voudrait nous enseigner. Il faut savoir la pensée de Dieu. Alors, elle dit, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara. Mais le Seigneur, dans sa bonté, dans sa grâce, a comblé notre chère Naomi par l'amour de Ruth qui lui valait, disait la population, des fils. Elle te vaut mieux que des fils, qu'il disait à Naomi. Cette fille-là, ta belle-fille, te vaut mieux que des fils. Et elle est devenue la femme de Boaz. Et alors, voilà une cause d'amertume, c'est un manque de foi qui nous a fait prendre une décision qui n'était pas la bonne. Puis alors, vous avez l'amertume d'Anne. D'Anne, dans le chapitre 1er de Samuel, pourquoi? Parce qu'elle était la femme d'Elkana, qui avait une autre femme, Pénina, et qui humiliait Anne, parce qu'elle, elle avait des enfants, tandis que Anne était stérile. Et vous la voyez qui pleure. Et le serviteur de Dieu, le vieil Élie, croit qu'elle est ivre. Il n'a pas de discernement spirituel. Il n'avait pas même su élever ses enfants. Il a attendu à 80 ans pour leur dire, Mais qu'est-ce que vous faites, mes fils? Parce que ses fils couchaient avec les femmes. Il aurait dû les élever. Ah, bon, c'est pas à 80 ans qu'on va reprendre ses fils. Non, mais c'est ça. Sachez élever vos enfants. Eh bien, Anne, elle le dit, mais je suis une femme qui est de l'amertume dans l'âme. Elle avait vraiment une tristesse, elle avait une souffrance. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle l'exposait à Dieu. Elle épanchait son âme devant Dieu. Comment voulez-vous être délivré de l'amertume? Eh bien, dites-le au Seigneur. Allez à lui, répondez vos âmes devant lui, dans la tristesse qui est peut-être la vôtre. Ne gardez pas cela. Le Seigneur vous répondra comme il a répondu à Anne. Mais alors, il y en a un autre, il y a aussi, on pourrait parler de l'amertume de la mort. Agag, le roi amalékite, n'est-ce pas, que Saül a épargné alors qu'il aurait dû l'exterminer. Agag a été épargné par Saül. Mais voilà Samuel qui arrive. Et puis, il voit que Saül n'a pas du tout obéi aux ordres qu'il lui avait donnés, selon le commandement de l'Éternel. Et alors, on appelle Agag, qui dit, eh bien voilà, l'amertume de la mort est passée. Et oui, il y a une certaine amertume quand tout à coup, en pleine force, on sait qu'on est condamné à mort et qu'on va mourir. Lui, il croyait qu'on l'appelait et que c'était pour le libérer et c'était pour le tailler en pièces. C'est une autre affaire. Mais il dit l'amertume de la mort. Il y a différentes sortes d'amertume. Il y a eu une amertume de la mort dans le cœur d'Ézéchias. Alors il a demandé 15 années de vie. Enfin, il a demandé un prolongement de vie, ce qui ne lui a rien valu de bon. Parce qu'il était parti au moment où le Seigneur le voulait, d'abord, eh bien, il avait eu un magnifique témoignage. C'est dans les 15 ans qui ont suivi et que Ézéchias n'a pas marché comme le Seigneur l'aurait voulu. Puis il y a l'amertume aussi que vous voyez chez les hommes de David, quand ils arrivent à Tsiklag, au chapitre 30 du premier livre de Samuel, et qu'ils se rendent compte que la ville a été brûlée, qu'on a enlevé leurs femmes, leurs enfants et tous leurs biens. Alors, les Israélites parlent de lapider David, et ce sont pourtant ces hommes de guerre qui ont été avec lui, parce qu'ils avaient de l'amertume, les hommes de David à Tsiklag, c'est-à-dire une tristesse, chacun avait perdu un être qui lui était cher. Puis il y a aussi l'amertume de la Tsunamite, qui a perdu son enfant, et qui pourtant, le long du chemin, quand on lui pose une question au sujet de ce qui se passe chez elle, elle peut dire « tout va bien, tout va bien ». Et pourtant, elle arrive vers Élisée, et Élisée dit, eh bien, le Seigneur m'a caché l'amertume de la tsunami. Et il se rend compte qu'elle a une tristesse, mais le Seigneur ne lui a pas révélé. Et il apprend que son fils est mort. Et elle n'a pas voulu que Élisée laisse simplement aller Géasi. Elle a confiance en Élisée et elle veut ramener Élisée dans sa maison et c'est la résurrection de son fils. Maintenant alors, vous trouvez 6 fois dans le livre de Job l'amertume, nous aurons l'occasion d'y revenir. On trouve aussi dans les proverbes quelquefois l'amertume, un fils sage et le bonheur de son père, mais un fils insensé et l'amertume de sa mère. Proverbe 17, verset 25. Puis alors, dans le fameux texte de Romains 3, il est dit que les hommes, il n'y a pas de juste, pas même un seul, puis vous voyez un réquisitoire en 14 points et qui est fait au sujet de l'homme. C'est vraiment notre portrait que nous devons connaître, nous devons nous y reconnaître, il n'y a personne qui ait de l'intelligence, etc. Et il est dit, leur bouche, à ces hommes qui vivent loin du Seigneur, sont remplies de malédiction et d'amertume. Ils ne sont jamais contents de leur sort. Ils n'ont pas vraiment le bonheur. Mais quant à nous, alors, nous avons des textes comme Éphésiens 4, verset 31, qui nous montre que l'amertume ne doit pas habiter dans nos cœurs, et que toute amertume soit ôtée du milieu de vous. Ne soyez pas amers à l'égard d'un frère ou d'une sœur. On a pu vous décevoir, on a pu être injuste avec vous, mais soyez sans amertume. Le Seigneur ne veut pas que vous cultiviez en vous l'amertume. Verset 31, que toute amertume, donc il y a différentes amertumes, hein, mais que toute amertume, tout courroux, toute colère, toute crierie, toute injure, soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, etc. Donc, l'amertume, nous devons la juger comme étant un péché. C'est comme ça que nous pouvons en être délivrés. Et dans Hébreux 12, il est dit qu'il nous faut veiller pour qu'aucune racine d'amertume ne vienne nous troubler. C'est si facile que ça bourgeonne dans nos cœurs et puis que nous soyons troublés. Alors, veillons pour que nous soyons gardés de toute amertume. Et si nous avons de l'amertume dans le cœur, eh bien, comment en être libéré? J'ai fait cette expérience pour moi que mes angoisses ou mes soucis, je ne pouvais en être libéré que quand les confessant comme des péchés. Et quand j'ai compris cela, eh bien, c'était une véritable délivrance. Au lieu d'être écrasé par un souci, je le dis au Seigneur, parce que Jésus me dit que je ne dois pas me mettre en souci. Ne vous mettez pas en souci pour votre vie. Alors, si je me mets en souci, qu'est-ce que je fais? Je pêche. Je transgresse la parole du Seigneur. Alors, je n'ai pas le droit de garder mes soucis. Le Seigneur me dit, jette-les à mes pieds, comme le péché, rejetant sur lui tout votre souci et le péché qui vous enveloppe si facilement, pour que vous puissiez courir la course. Et que nous ne soyons pas de ces gens amers, parce que nous avons eu des épreuves, nous avons eu toutes sortes de choses. Alors nous sommes amers, nous nous plaignons de notre sort. C'est les hommes des derniers temps qui sont caractérisés par cela. Mais quand nous pouvons confesser cela comme des péchés, le Seigneur nous libère. Parce que si nous avons péché, nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Et alors, ce que la parole de Dieu produit, je pense encore à Apocalypse chapitre 10, quand Jean est appelé à manger le petit livre, hein, à se nourrir des paroles que le Seigneur lui donne, dans sa bouche, elles sont douces comme du miel, mais dans son ventre, elles provoquent de l'amertume. Ça fait un travail. Et voyez-vous, parce qu'on n'est pas au point, on a besoin d'être corrigé, on a besoin d'être sanctifié, et alors il faut accepter ce travail. Ça opère en nous quelque chose. Ça ne nous laisse pas intact. Voilà, j'ai essayé simplement de vous souligner, alors, bibliquement, ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'amertume. Avez-vous des questions encore? Donc, demain, nous allons commencer le deuxième cycle. Alors, je vous invite à lire les chapitres 15, qui est le second discours d'Éliphaz à Job, et puis la réponse de Job, chapitre 16 et 17. Après quoi, donc le soir, Nous aurons le second discours de Bildad demain soir et la réponse de Job dans le chapitre 19 et vendredi matin, ce sera notre dernière étude, nous aurons le discours de Tsophar à Job et la réponse de Job à Tsophar au chapitre 21 et nous aurons parcouru 520 versets dans cette première semaine et samedi soir, c'est le second camp, enfin ceux qui sont là continuent, n'est-ce pas ? Mais on fera un résumé succinct de ce que nous avons vu pour que les autres puissent entrer et suivre et en même temps ce sera comme une récapitulation de sorte qu'ils pourront entrer de plein pied dans la suite et nous aurons encore 21 chapitres à faire et Dieu voulant nous aurons couvert le livre de Job le vendredi suivant, le vendredi matin. Et vendredi soir, c'est votre réunion, c'est la réunion de témoignage pour ceux qui doivent aussi nous quitter et pour tous, si vous avez à partager quelque chose au sujet de cette semaine, eh bien, vous vous sentirez libre. Voilà un peu le plan que le Seigneur nous a donné. Nous nous proposons certaines choses, mais nous laissons le Seigneur disposer. Nous prions. Dieu notre Père, qu'il fait bon être dans le silence devant toi. Nous croyons que tu veux prolonger toi-même dans le lieu de notre repos ces moments que nous venons de passer autour de ta parole où nous avons simplement essayé de comprendre ce que tu as voulu nous dire. Nous te bénissons pour les hommes que tu as suscités pour traduire dans notre langue cette parole. Nous te bénissons aussi d'avoir mis au cœur de certains de pouvoir employer un langage peut-être plus simple, plus courant, pour qu'au moins cette parole soit reçue et lue. Soit comprise. Donne-nous de nous réjouir de tout ce qui se fait vraiment pour toi en ton nom. Tu ne glorifies pas la chair. Tu veux nous apprendre à nous connaître. Et nous voulons te supplier que tu poursuives cette œuvre dans tous nos cœurs jusqu'à la fin de ce camp pour ta seule gloire. Garde-nous de tout mal. Nous te remercions de ce que cet arbre n'est pas tombé sur l'un de nous. Tu étais dans le camp et tu veillais. Et nous te bénissons, sensibles à tous tes bienfaits. Fais ton œuvre en nous. Restaure, libère, délivre, guéris par ta puissance. Ô Jésus.